Au cours des deux dernières semaines, on a vu rouge, mais le sport est toujours debout. Ah, puis si vous voulez vraiment toucher la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay est vraiment l'équipe des Québécois. Après une belle saison, les Blue Jays de Toronto se sont envolés vers le Canada. Brent Lakatos remporte le marathon de Londres sous la pluie, pendant que les Lakers de Los Angeles et LeBron James se rapprochent du titre. Nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Dean Bergeron, Yvon Deslauriers, Louis Garon, Pierre Hutsebeau, Michel Laflamme et Martin Pouliot. À la mise en onde, Mathieu Tessier et à la coordination, Louis Garon. Au cours de l'émission d'aujourd'hui du 6 octobre 2020, nous parlerons de cyclisme, de para-hockey, du tournoi de tennis de Roland-Garros, du travail de dépisteur dans la Ligue nationale de hockey, du repêchage de la LNH et finalement des bagarres dans la Ligue nationale de hockey junior majeur du Québec. Alors, pour commencer l'émission, je voulais parler un petit peu de soccer. La semaine dernière, lors d'un match de la USL, le Loyal de San Diego affrontait le Risings de Phoenix. Les joueurs du Loyal de San Diego ont quitté le terrain en première demi, en affirmant que leur coéquipier Colin Martin a été l'objet d'insultes homophobes de la part d'un joueur du Rising. Puis Martin est ouvertement homosexuel. Le match a été disputé à San Diego et la Ligue a désigné le match comme forfait pour le Loyal. Leur entraîneur, London Donovan, a plus tard expliqué que dans une vidéo publiée sur Twitter, que les joueurs ne supportaient pas ça. Ils ont été très clairs à ce moment qu'ils amèneraient tout espoir de faire les séries, même s'ils étaient en train de battre l'une des meilleures équipes de la Ligue. Ils ont dit que ça n'avait pas d'importance, qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie et qu'il faut se battre en ce quoi on croit. Puis c'est, pour moi, je trouve ça très important. Puis ça démontre l'importance du sport. Puis au cours des dernières semaines, on en a vraiment parlé. Bonjour, M. Hutsebeau. Comment allez-vous aujourd'hui?
Bonjour. Ça va bien. Ça va très bien, oui.
Merci. Donc, vous avez trois athlètes québécois, les trois seuls Québécois qui se sont rendus au Tour de France. Vous les avez entraînés. Quel est votre secret?
Secret, je ne sais pas, mais c'est quand même eux qui pédalent. Mais bon, je les ai accompagnés dans leur progression année après année. Et ce qui est important, c'est de pouvoir évaluer chaque étape, si on peut en franchir une de plus, etc. Les athlètes, eux, ils avaient la motivation, puis moi, quand ils sont motivés, ben, c'est contagieux. Alors, je travaille avec eux.
Vous avez commencé à les entraîner à quel moment dans leur carrière, généralement?
Généralement, quand ils sont assez jeunes. David Veilleux avait 18 ans, Hugo Hull, 15, si je me rappelle bien. Et puis Antoine, 19. 18 ou 19, je pense.
OK. C'était quoi avec vous leur régime d'entraînement?
Ben, quand on commence, on n'a pas un objectif très très clair quand on commence. C'est une étape à la fois. Mais ce qui est important, c'est d'avoir quand même de développer une discipline. Une discipline d'entraînement, une discipline de vie aussi, de pouvoir mettre ensemble les études et l'entraînement. Pour moi, c'est ce qui est le plus important quand on est jeune, quand on est au cégep, par exemple. On peut faire les sessions un peu sur mesure avec le système du cégep et puis mettre le temps qu'il faut pour s'entraîner, mais c'est surtout garder en tête un équilibre entre réussir ses études et puis progresser en vélo.
Donc, vous les connaissez depuis assez longtemps. Est-ce que vous avez su, dès que vous les avez rencontrés, que eux, ces athlètes-là, ont un assez bon potentiel ou c'est avec le temps qu'on s'en rencontre?
C'est... Bon, Il y a deux sortes de façons de voir le potentiel. Il y a d'abord des tests de laboratoire. Bon, ça, c'est sûr que quelqu'un qui a le test de base, c'est le test de VO2 max. Et quand on a un VO2 max élevé, on a un potentiel d'aller loin. Bon, ça c'est une chose. Mais parmi tous ceux qui ont un VO2 max élevé, après c'est la motivation, c'est le désir qui compte. Donc c'est la personnalité.
Ok. Maintenant, ces trois athlètes-là sont des professionnels. Ils ont chacun leur équipe. Ils sont entourés probablement d'entraîneurs et de, en anglais, ils disent de support staff, là, des médecins, des physios, des nutritionnistes, tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que vous avez encore un rôle avec eux et quel est ce rôle-là?
On va faire la distinction des trois athlètes-là. Le premier qui a atteint le niveau World Tour, c'est David Veilleux, qui a fait le Tour de France en 2013. Et puis, à ce moment-là, les équipes n'étaient pas aussi organisées qu'elles le sont maintenant. Ben, il y a quand même 8 ans de ça, là, 7 ans de ça. Et fur et à mesure, les équipes ont ajouté du staff. Donc, au début de leur carrière professionnelle, j'étais complètement en contrôle de leur entraînement, mais plus les équipes se sont agrandies au niveau du staff, on a un rôle un peu de collaborateur et je reçois de façon régulière, ben, tous les jours, là, leur fichier d'entraînement et on en parle sur les moyens comme avec Messenger, etc. Bon, parce qu'ils sont en toute la saison, ils sont en Europe là. Et il y a une différence entre leurs premières années au niveau du World Tour, puis maintenant où est rendu Hugo Hull, là, il a 30 ans, si je me 29 ou 30 ans, enfin, je regarde sa date de naissance exacte là. Et évidemment, c'est plus un rôle de collaborateur que de. Parce que ce qui compte, c'est le nombre de courses qu'il va faire, comme en ce moment, là, il a fait le Tour de France, championnat du monde, là, il a fait les courses La Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, il a fait Ganvet-Veldiem, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Il n'y a plus d'entraînement à faire, là, c'est course après course, donc c'est l'équipe qui décide. C'est beaucoup, beaucoup axé sur la récupération. Alors, comme on est sur la récupération, c'est là que les équipes ont un rôle extrêmement important à jouer parce qu'ils ont des ostéopathes, massothérapeutes, diététiciens, etc. Donc, on a, quand on arrive à ce niveau-là, c'est une équipe. Et puis, moi, je me fie à eux pour gérer la récupération. Quand on se prépare, je joue un rôle plus important. Mais quand on est en pleine saison de compétition, un peu comme si des matchs de hockey se suivent sur la route, etc., les personnes les plus importantes, c'est ceux qui s'occupent de la récupération et de l'alimentation.
Si on revient à la performance de Hugo au Tour de France, sa performance est exceptionnelle. Une 47e position au classement général, une 7e place lors d'une étape, les 7 top 20. De quel résultat vous êtes le plus fier?
Sincèrement, la première étape. La première étape. Pourquoi? Parce que il a démontré des nerfs d'acier là. Si vous voyez les trois derniers kilomètres là, où il y a eu beaucoup de chutes, etc. Il a maintenu une place en avant du peloton. Tout le monde voulait gagner cette première étape là. Plusieurs coureurs ont perdu le tour à cause de cette première étape, comme par exemple Thibaut Pinot qui est tombé, etc. Et je le voyais à la télévision, parce que bon, il est assez reconnaissable, je le voyais qu'il luttait pour... Il était en première ligne, je sais pas moi, à 800 mètres de l'arrivée. Où, dans le dernier kilomètre, à un moment donné, il était en première ligne, puis évidemment, les meilleurs sprinteurs ont débordé, là, etc. Mais juste le fait d'avoir l'esprit de lutte, là, l'esprit de se mesuré, puis c'est pas un pur sprinter, Hugo, là. Il peut faire des bons sprints quand on est en petit comité, mais là, tout le peloton était là, il y avait 150 coureurs. Là. Je crois que la première étape, oui, je pense que c'est la première étape, c'est ça. Et je l'ai vu se battre là pour finir dans les. Je crois qu'il est fini 15e ou 14e, il faudrait que j'ai les résultats sous les yeux. Là. Mais le fait qu'il se battait pour faire une place à l'arrivée, alors que le tour commençait, il y a encore 20 jours à faire, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ça démontrait que son esprit était là pour dire ouais, je suis dans la game.
Merci beaucoup, Monsieur Utsebo. Cher auditeur, Monsieur Utsebo fait partie du cycliste canadien depuis près de 40 ans. Si vous voulez en savoir un peu plus sur sa carrière, je vous invite à écouter le balado. Pour l'instant, on continue l'émission. On peut gagner, on peut plus que participer, nous on peut gagner. Le para-hockey est probablement le sport le plus populaire des Jeux paralympiques d'hiver. Au cours des dernières semaines, les dirigeants de la Fédération internationale de para-hockey ont publié un plan stratégique qui mènera le sport jusqu'aux Jeux de Pékin en 2022. On rejoint la directrice de la Fédération en direct de Bonn en Allemagne pour nous en parler. Bonjour Madame Laflamme, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Pouvez-vous nous donner les grandes lignes du nouveau plan stratégique de la Fédération internationale?
On a lancé notre plan stratégique cet été après avoir fait une étude auprès de nos partenaires afin d'avoir le meilleur plan possible. Donc, après avoir consulté tous nos partenaires, on s'est vraiment rendu compte que nos priorités devaient se concentrer sur le développement ou à plusieurs niveaux, donc autant chez les jeunes que chez les femmes. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut focusser dans les prochaines années. Et également, on doit continuer d'offrir un portfolio d'événements pour nos membres qui sont actifs avec nous, dans le fond, pour s'assurer que les spectateurs se joignent à la partie et que les athlètes continuent de développer au niveau international.
Donc, mes deux prochaines questions vont aller en ligne avec ce que vous venez de dire. Le para-hockey féminin est très populaire au Canada et aux États-Unis. Quelles sont les chances de les voir aux Jeux paralympiques de 2026, par exemple?
C'est une bonne question. Donc, en ce moment, nous, on a beaucoup de communication avec les équipes du Canada et des États-Unis. Malheureusement, ce n'est pas un mouvement qui est prédominant dans les pays qui sont pratiquants du hockey à l'année longue. Donc oui, on a le Canada et les États-Unis qui sont très impliqués. On a quelques pays en Europe qui commencent à se développer, à mettre des programmes sur place. Par contre, si on compare avec qu'est-ce que les hommes ont, on voit clairement qu'il y a un manque de ressources de la part des pays afin d'aider ces femmes à avoir accès non seulement à la glace, mais à un programme, à des entraîneurs. Donc, pour faire une longue réponse, les chances de les voir en 2026, je dirais qu'ils sont minces. On doit faire les choses de la bonne façon, étape par étape. Donc, on doit commencer par, premièrement, s'assurer que les pays en développement puissent avoir une équipe nationale, puissent avoir un programme national pour que, premièrement, ils puissent participer à un championnat du monde que nous devons organiser. Puis, suite à ça, continuer dans le développement de championnats de championnats internationaux pour ensuite leur offrir une place aux Jeux paralympiques.
Est-ce que vous êtes fixé un objectif en termes d'années pour ça?
Oui, donc premièrement, nous, notre plan stratégique qu'on a sorti, c'est jusqu'en 2022, donc jusqu'à la conclusion des Jeux paralympiques de Beijing. Et d'ici là, notre premier objectif est bien évidemment de faire un championnat du monde féminin. Donc, on a quelques étapes à suivre. On va commencer par une Coupe du monde, suivie d'un championnat du monde et on va essayer de grandir le nombre d'équipes qui participent à nos championnats mondiaux.
C'est bon. Et vous avez plutôt parlé d'avoir une meilleure compétition au niveau masculin pour que les meilleurs joueurs puissent se rencontrer plus souvent. Il n'y a pas vraiment de ligue organisée ou de ligue professionnelle au para-hockey. Est-ce que c'est quelque chose que la Fédération internationale peut travailler vers un but pour se rendre là?
Donc, nous, c'est sûr qu'on encourage les nations à développer leur club, qu'on appelle. Certains pays ont déjà des clubs, donc dans certaines provinces ou certaines villes. Et de ces clubs-là émergent les joueurs du programme national qui participent aux événements du para-ice hockey, ou para-hockey sur glace, pardon. Mais dans le sens que nous, c'est pas une de nos missions de créer ces ligues, comme par exemple la Fédération internationale de hockey n'a pas comme mission de gérer ou d'être impliquée avec la Ligue nationale de hockey. Bien évidemment, il y a des échanges qui doivent être faits parce qu'on veut travailler ensemble. Pour nous, évidemment que ça bénéficie à tout le monde s'il peut avoir des ligues organisées. En tant que soutien, nous, c'est certain qu'on peut être là pour offrir des développements, du soutien au niveau du développement, donc aider les entraîneurs, aider les gens à recruter des athlètes, à leur donner les outils nécessaires pour gérer une équipe. Parce que c'est bien beau avoir accès à de la glace, mais gérer une équipe de hockey, c'est plus que juste ouvrir et fermer la porte de l'aréna. Donc oui, nous, on peut aider, comme on le fait d'ailleurs en ce moment. Mais de là à gérer une ligue, non, c'est pas quelque chose qui est en ligne avec nos objectifs.
Il y a plusieurs parasports qui ont leur fédération internationale, inclus à même les fédérations internationales régulières, comme la Fédération internationale de cyclisme, l'UCI en anglais. Quels sont les liens entre la fédération le World Para-Ice Hockey en anglais et la Fédération internationale de hockey sur glace?
Oui, donc le Comité international paralympique est hôte de 10 sports, dont le para-hockey sur glace. Donc, on est notre propre entité, mais on est sous la gouvernance du Comité international paralympique. Par contre, on a un bon partenariat avec la Fédération internationale de hockey, dans le sens où on peut toujours se fier sur eux pour nous aider à prendre des décisions éclairées ou pour partager des documents, pour partager l'information à leurs membres, aussi dans le recrutement d'arbitres quand c'est nécessaire, dans le recrutement d'officiels hors glace. Il y a une bonne communication qui est faite entre les deux entités, donc entre la Fédération internationale et le para-hockey sur glace. Si on regarde dans le futur, oui, c'est certain que c'est absolument intéressant pour nous de travailler encore plus avec eux, parce que eux ont vraiment le pouls sur la communauté hockey internationale. Et puis, c'est bien sûr plus facile pour une organisation nationale qui gère une équipe de hockey de créer une équipe de para-hockey. C'est un petit peu plus difficile quand on part avec une entité qui n'a même pas de connaissances de hockey. Donc, quand on regarde les nations dominantes avec la AHF ou la IAHF, c'est évident qu'on peut voir qu'il y a des équipes, qui auraient pardon, qu'il y a des nations qui auraient le potentiel de créer des équipes de para-hockey. Donc, nous, c'est certain qu'on veut encourager ce partenariat, ces communications-là, pour s'assurer que les gens savent que le para-hockey est une option et puis qu'ils doivent être encouragés à développer leur programme au niveau national.
Merci beaucoup, Madame Laflamme, d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup.
Le repêchage de la Ligue nationale de hockey se tient présentement par vidéoconférence, pardon. Alexis Lafrenière sera le premier choix. Après ça, c'est un peu moins certain. Le Canadien de Montréal a plus d'une dizaine de choix, dont trois choix de deuxième ronde. On dit souvent que le repêchage est une science inexacte. Notre chroniqueur Yvan Deslauriers, qui a un bac en statistique de l'Université de Montréal, s'est amusé à regarder d'un autre œil cet événement annuel. Bonjour, Yvan, ça va bien?
Oui, bonjour Dominique. Oui, ça va très bien, merci.
Je pense d'ailleurs que tu as une petite énigme pour moi.
Depuis, ça commence, c'est comme, je vais vous lancer une phrase, puis c'est vrai que okay. Vous avez mon texte, là, mais essayez de faire semblant que vous savez la réponse, vous savez pas la réponse. Depuis cinq ans...
Je l'ai pas lu, fait que je le sais pas. C'est bon.
OK, c'est encore mieux, encore mieux. Depuis cinq ans, oui. J'ai été échangé précisément 83 fois. Encore cet automne, je suis au cœur de toutes les rumeurs de transactions de la Ligue nationale de hockey. Qui suis-je?
Je te dirais les considérations futures.
Et ça pourrait être une très bonne réponse. Ce n'est pas ça, c'est le choix de deuxième tour. C'est à la fois l'atout le plus surévalué et le plus sous-estimé de la Ligue. C'est celui que les partisans sont prêts à sacrifier pour un marqueur de 30 buts ou à acquérir contre un huitième défenseur sous-productif, surpayé et opéré trois fois à la hanche dans les 18 derniers mois.
Alors, pourquoi étudier les choix de deuxième ronde au lieu que les choix de première ronde?
Ben, c'est parce que en première ronde, les équipes espèrent choisir un joueur qui va faire un impact rapidement. Souvent, les équipes vont sentir une pression au premier tour pour choisir le joueur le mieux considéré généralement parce qu'ils ne veulent pas être critiqués pour avoir pris une chance. Prenons par exemple en 1993. Le premier choix au repêchage a été fait par les Sénateurs d'Ottawa et il s'appelle Alexandre Daigle. Et à l'époque, il a dit une chose étonnante. Il a dit « Je suis content d'avoir été choisi en première place parce que personne ne se souvient du deuxième choix. » Alors, qui a été choisi?
C'est d'ailleurs vrai, je ne me souviens plus qui est le deuxième choix.
Alors, Chris Pronger, qui va sûrement faire son entrée au temple de la renommée un jour. Alors, tandis que notre Alexandre Daigle, lui, sa carrière a périclité assez rapidement. Alors, en deuxième ronde, les équipes ont une tendance à être plus créatifs et à choisir un joueur qu'ils aiment, même s'ils ne sont pas classés aussi haut par d'autres équipes. On suppose d'ailleurs que plusieurs échanges se concrétisent avec l'ajout d'un choix de deuxième ronde dans l'offre. Par exemple, si je veux avoir le joueur A, puis j'appelle l'équipe et je lui dis, pour le joueur A, je vais t'envoyer le joueur B et un deuxième choix au repêchage. Là, ça commence à prendre de l'importance, puis là, l'équipe commence à écouter.
As-tu des exemples de ce genre de situation de choix de deuxième ronde?
Un choix de deuxième ronde, ça peut avoir une valeur directe comme ça peut avoir une valeur indirecte. Je vous amène en 2006. Les Bruins de Boston ont deux sélections de deuxième ronde. Ils ont repêché dans l'ordre un certain Yuri Alexandrov, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et Milan Lucic, que lui, on connaît particulièrement bien. S'ils n'avaient eu qu'un seul choix de deuxième ronde, ils l'auraient probablement utilisé pour choisir Yuri Alexandrov. Et il aurait choisi leur choix de troisième ronde pour obtenir Lucic s'il avait été disponible à ce moment-là. Si ça avait été vrai, si ça s'était fait comme ça, il n'aurait pas pu choisir en troisième ronde un certain joueur du nom de Brad Marchand, qui a complètement révolutionné leur équipe.
C'est vrai. Et donc, les choix de deuxième ronde sont très importants.
Oui, mais il ne faut pas exagérer. En fait, c'est un peu le syndrome de la loterie. Parce qu'il y a des gens qui gagnent à la 6,49, tout le monde pense qu'un jour, ils pourraient gagner. Alors, parce qu'il y a eu des très bons joueurs qui ont été choisis en deuxième ronde, toutes les équipes pensent qu'ils vont être capables d'aller choisir la perle rare. Mais en général, ce n'est pas le cas. Par exemple, Alexandre Pratt, dans son article de vendredi dernier, il a examiné les statistiques de tous les joueurs choisis entre 2000 et 2013, ce que j'ai fait aussi. Sauf exception, les joueurs de deuxième ronde choisis depuis 2014 ne sont pas vraiment là parce qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de s'installer dans leurs équipes respectives. Vous voyez qu'est-ce que ça a donné. Il y a 11% d'environ 442 joueurs pour cette période-là qui sont des joueurs d'impact, c'est-à-dire qu'ils ont eu plus de 200 points ou plus de 10 000 minutes jouées. Et dans les exemples qu'on a, il y a notre fameux Piqué Subban, il y a Shea Weber, il y a Bergeron, puis il y a Tatar. Alors, c'est ça qu'on essaye d'aller chercher, des joueurs.
C'est pas n'importe qui, là.
Non, non, non. Il y a 28%, soit plus que le quart, qui sont des joueurs de soutien. C'est-à-dire qu'ils ont joué entre 1000 et 10 000 minutes et qui ont moins de 200 points, qui ont compté moins de 200 points. Par exemple, Maxime Lapierre, Jacob Delarose et Xavier Ouellet. Trois joueurs qui ont déjà joué pour le Canadien. Et finalement, il y a 6 joueurs sur 10, 61%, qui ont disputé moins de 1000 minutes. En fait, c'est plus du tiers des joueurs repêchés au deuxième tour qui n'ont jamais évolué dans la Ligue nationale. En résumé, il y a 8 fois plus de réservistes et de gars des ligues mineures repêchés au deuxième tour que de joueurs d'impact. Mais évidemment, on rêve toujours à Patrice Bergeron et à Piquet Souban, et on oublie tous ceux qui n'ont fait que passer.
On veut toujours gagner la loterie de 649. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 10 millions?
Peu importe la probabilité de le gagner ou pas.
C'est ça. Donc, rapidement, ton équipe d'étoiles depuis 2000, avec des choix de deuxième ronde, ça ressemble à quoi?
Oui, j'ai fait...
En 30 secondes à peu près.
J'ai regardé tous les repêchages depuis l'année 2000 et j'ai fait l'équipe d'étoiles. En tout cas, c'est mon équipe d'étoiles. Et je pense que je pourrais m'en aller pas mal loin en séries éliminatoires avec une équipe comme celle-là. Les gardiens de but. Il y aurait Corey Crawford, qui était le 52e en l'an 2000. Jake Allen, qu'on vient tout juste d'embaucher, qui était 34e en 2008. Et si on était mal pris à surveiller, on pourrait faire jouer un certain Carter Hart, qui a été 48e en 2016. Ensuite, j'ai 3 paires de défenseurs. La première paire, ça serait probablement Shea Weber avec Roman Josi, qui ont été choisis en 2003 et 2008 respectivement. Et les Predators de Nashville avaient ces deux défenseurs-là à un moment donné. La deuxième paire, ça serait Marc-Édouard Vlasic et Piqué Souban. Et la troisième paire, ça serait Jeff Petrie et Samuel Girard. Fait que ça serait pas si pire, nos trois paires.
Yvan, rapidement, il reste juste quelques secondes. Peux-tu me dire les joueurs d'avant, 2-3 noms qui t'ont marqué?
Oui, Patrice Bergeron, Paul Stachny, Sébastien Aho et évidemment Nikita Kucherov, qui ont tous été choisis deuxième. Ça, c'est la crème de la crème des choix de deuxième ronde, mais il y en a pas mal plus qui n'ont pas réussi. Alors prenons notre gaz égal avec un masque ou pas.
Merci beaucoup, Yvan. C'était très intéressant. On s'en va à la pause et de retour, on va continuer de parler de repêchage avec un dépisteur.
Ladies and gentlemen, welcome to the Halftime Show. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price.
Alors, on vient d'entendre la chanson Kozazes de Foreigner et on continue notre discussion du repêchage qui a lieu présentement par vidéoconférence. Le repêchage de la Ligue nationale, ça se prépare depuis des mois, même des années. Des centaines d'individus parcourent les arénas à travers le monde pour trouver le joueur qui pourrait améliorer leur équipe. Pour parler du métier de dépisteur, j'ai rencontré Martin Pouliot cet après-midi, qui est dépisteur professionnel avec les Capitals de Washington. Bonjour, M. Pouliot.
Bonjour.
Donc, comment on devient recruteur de hockey?
Moi, j'ai commencé dans les années 90, pour plus précisément 96-97, avec les Tiques de Victoriaville. Un copain que j'avais dans le softball était directeur général des Tiques de Victoriaville à l'époque, Pierre Roux. Fait qu'il m'a engagé pour deux saisons à titre de dépisteur pour le junior, pour les Tiques de Victoriaville. Fait que c'est là que j'ai pris mon expérience. Puis, à la suite de mes deux saisons avec Victoriaville, un de mes copains était avec le Star de Dallas, Alain Rioux, qui était un bon ami de Bob Gainé. Puis, il m'a fait rencontrer le dépisteur-chef de Dallas. Puis, j'ai obtenu l'emploi. J'ai travaillé avec Dallas un an en 98. Puis après ça, j'ai switché de Dallas à Washington. Puis je suis avec les Caps depuis 1999.
Aujourd'hui, c'est le repêchage. On n'est pas dans un aréna, on est par vidéoconférence. Comment on se prépare pour le repêchage habituellement?
Là, c'est sûr que moi, je fais du recrutement professionnel depuis à peu près 8-9 ans. Fait que j'ai plus vraiment affaire au dépistage amateur. Ça veut dire que les matchs que je vais voir maintenant, je fais des rapports sur les gars qui sont repêchés par les autres équipes. Fait que j'aide mon organisation au niveau des transactions maintenant. Ce que je sais, par exemple, c'est que c'est pas tous les dépisteurs amateurs de mon organisation. Je sais pas pour les autres organisations comment ça fonctionne, mais je pense qu'on a juste 5 ou 6 gars qui sont dans les bureaux à Washington présentement pour le repêchage amateur qui va commencer ce soir à 7h. Fait que je sais pas si c'est tout le monde qui a réussi à voler vers les États-Unis. Fait que je pense qu'ils ont juste amené les dépisteurs américains pour cette année, étant donné la COVID. Fait que, mais il faut que tout le monde reste. On a un Zoom conférence ce soir à 7h où tous les dépisteurs de l'organisation vont être là. Mais en personne, je pense qu'il va y avoir juste 5 ou 6 personnes qui vont être dans nos bureaux à Washington.
Le jour du repêchage, en tant que dépisteur professionnel, toi, tu le regardes plus à la télé ou tu as un travail particulier?
Bien, comme je viens de te dire, on va être dans une Zoom conférence à 7h. Notre directeur gérant a des pourparlers avec d'autres directeurs gérants. Il va nous demander notre opinion s'il y a des pourparlers de transactions, s'il y a une offre pour une transaction. Fait que on va débattre ça dans le Zoom conférence qu'on a, si ça peut pour s'avancer au draft ou se reculer au draft aussi à notre rang de sélection. Fait que c'est sûr qu'ils ont demandé que tout le monde soit disponible pour la première ronde ce soir, puis demain pour les rondes 2 à 7.
C'est bon. Tu as aussi été impliqué longtemps au baseball, donc tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais un frappeur qui frappe pour 300, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de succès. Comme recruteur, le succès, ça se mesure comment?
C'est sûr que, comme je dis souvent, on fait un millier de rapports par 1000 à 1500 rapports par année sur les joueurs qui sont admissibles au repêchage. C'est sûr que ta moyenne au bâton au niveau de tes employeurs, c'est sûr que le plus de bons rapports que tu fais sur des bons joueurs, même s'il n'est pas repêché par ton équipe, te donne de la crédibilité auprès du dépisteur-chef. C'est sûr que les gars qui sont dans des régions, quand tu réussis à sortir un gars en 4e, 5e, 6e ronde, puis on sait que le pourcentage de ces gars-là qui vont jouer dans la Ligue nationale un jour sont très, très, très minces. Fait que si tu réussis à ce qu'il y ait un de tes joueurs de ta région dans les rondes plus tardives réussi à jouer, c'est sûr que tu gagnes en crédibilité. Mais je pense que c'est comme une moyenne au bâton un peu. On dit au travers de la ligne nationale qu'il y a des organisations qui repêchent bien, mais ça veut dire qu'année après année, ils sont capables de tout le temps passer un à deux joueurs de leur repêchage. Fait que on en repêche sept. Si tu as un choix à chaque ronde, ça veut dire que tu vas avoir sept choix. C'est sûr que si ton directeur général fait des transactions puis qu'il met la main sur d'autres choix au repêchage, puis que tu arrives dans ce repêchage-là comme ce soir, puis tu as, mettons, je sais pas moi, Montréal a 14 choix, puis Washington en a 5, bien c'est sûr que les chances que Montréal ait un meilleur repêchage que Washington sont beaucoup plus grandes. Fait que plus que tu as de choix, plus que tu augmentes tes chances d'avoir un bon repêchage.
Quel a été ton plus beau moment avec les Capitals de Washington?
C'est sûr que c'est la Coupe Stanley. Là. Si tu me demandes le plus beau moment, c'est sûr que c'est la Coupe Stanley de 2018. Mais point de vue sélection de joueurs, c'est sûr que les deux joueurs que moi, ils m'ont donné beaucoup de crédibilité, c'est deux choix tardifs qu'on a fait, là, je pense, en Mathieu Perrault en cinquième ronde, puis Johnny Oduya, je pense que c'était la sixième ronde. Fait que c'est sûr que c'est deux joueurs ça, qui ont eu des belles carrières dans la Ligue nationale. Mathieu joue encore un peu là pour Winnipeg. Il joue sur un troisième trio, sur un quatrième trio, mais c'est un gars qu'on a eu aussi chez nous à Washington. Puis Oduya, c'est sûr que c'est deux gars qui m'ont donné beaucoup de crédibilité au sein de mon organisation.
Je te remercie beaucoup, Martin, d'avoir pris un peu de temps de nous parler. Je te souhaite un bon automne en espérant qu'il va y avoir pas mal de matchs de hockey à regarder. Et puis... on se reparle la prochaine fois. Merci.
Parfait. Merci beaucoup. Bye-bye.
La musique que vous entendez présentement est la trame sonore du film Youngblood, un film de 1986. Ça raconte l'histoire d'un jeune hockeyeur talentueux qui doit se battre sur la glace, pour faire sa place. Ces choses-là ont bien changé. D'ailleurs, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a modifié ses règlements de bataille la semaine dernière. Les joueurs fautifs maintenant recevront 15 minutes pour s'être battus et un match de suspension après trois bagarres. J'ai parlé hier avec Dean Bergeron, un athlète paralympien qui a gagné plusieurs médailles, qui a eu sa blessure lors d'un camp d'entraînement des Cataractes de Shawinigan. Bonjour Dean, comment ça va?
Bonjour Dominique, ça va très bien.
Il y a près de 15 ans, tu avais rencontré les directeurs généraux de la Ligue junior majeure du Québec pour faire un plaidoyer contre les bagarres. Tu réagis comment face à la nouvelle entente, au nouvel règlement?
Oui, bien dans le fond, effectivement, il y a 15 ans, avec Enrico Ciccone, on avait entrepris une espèce de petite croisade, si on veut, là, contre les bagarres, en expliquant effectivement qu'est-ce qui m'était arrivé. Parce qu'aujourd'hui, je vis avec une quadriplégie. J'étais victime justement d'une bagarre au hockey en 1987. Puis à l'époque, lorsqu'on avait rencontré les gouverneurs puis les dirigeants de la Ligue, on avait commencé à semer une graine là, à l'époque. On était très, très conscients que le chemin allait être très long. Aujourd'hui, ce qu'on a forcé de constater, qu'il y a eu beaucoup de chemin qui s'est fait. Je salue d'ailleurs là, l'initiative là, de M. Courteau. Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui fait un pas de plus là, pour enrayer les bagarres là, au niveau du junior majeur.
Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé plus précisément au cours des 15 dernières années pour qu'on arrivait là?
Ben, je pense qu'on a évolué. On a évolué comme partisans de hockey. Je pense que le sport a évolué. Je pense qu'aujourd'hui... Moi, je me rappelle à l'époque, ce qui m'avait amené à prendre position clairement contre les bagarres, c'était de dire on ne règle pas nos différends à coups de poing dans la face lorsqu'on est en compétition avec quelqu'un ou lorsqu'on a un différend avec quelqu'un. Alors pourquoi sur une glace c'est permis? Je pense qu'on a évolué, je pense que les jeunes se respectent de plus en plus là-dedans. Je pense qu'on est conscient aussi de plus en plus des impacts des coups à la tête en termes de commotion cérébrale, lorsqu'on parle des dommages qu'on peut faire à notre cerveau, surtout à ces âges-là, là, entre 16 et 20 ans, où ce que ton cerveau se forme encore. Et pour moi, il y a une responsabilité lorsqu'on est gouverneur d'une ligue comme ça, ou lorsqu'on est, on est entraîneur de jeunes qui ont entre 16 et 20 ans. On a un devoir de père de famille là, ou de mère de famille à protéger ces jeunes-là et à leur montrer également pas seulement les impacts négatifs d'une bagarre, mais c'est une fonction éducatrice de dire, regardez, là, les bagarres, c'est pas une façon de régler nos problèmes. Fait que c'est plusieurs choses qui ont fait qu'on arrive à ça aujourd'hui. Je ne crois pas que c'est terminé de façon bien transparente. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais c'est quand même un bon pas qui a été fait.
Même, tu parlais des entraîneurs qui avaient un travail à faire. Patrick Roy, qui est l'entraîneur des Remparts, était d'accord avec le nouveau règlement. Ça, est-ce que toi, ça te surprend d'anciens joueurs?
Non, pas particulièrement. J'ai discuté avec des anciens joueurs de la Ligue nationale qui, peut-être à mot couvert, me disent leur position, puis dont certains bagarreurs même qui me disent « Dean, à chaque fois que je suis allé me battre, j'ai pensé à toi. » Fait que je pense que les... Tu sais, quand on regarde ça, il y a deux choses. Il y a les batailles qui sont... qui éclatent dans le feu de l'action, parce que... un jeune est frustré parce qu'il ne connaît pas le match qu'il veut connaître, puis il y a un peu d'intimidation, puis de part et d'autre, deux jeunes décident de se battre. Ça, c'est je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, ça va adresser ça. Ça va être très dissuasif pour les jeunes qui sont justement dans l'émotion, puis qui vont y penser deux fois avant de jeter les gants. Mais il y a tout le volet des bagarres qui sont, que j'appelle, télégraphiées ou qui sont commandées. Et je dirais qu'à ce niveau-là, je pense qu'on devrait faire plus de façon très, très transparente. Là. Je pense qu'on devrait... Je pense que l'équipe devrait... l'équipe devrait être... également impliqué de façon plus importante dans la dissuasion des bagarres. Et je vais essayer de m'expliquer bien rapidement.
Ouais, vas-y.
C'est deux jeunes qui décident, parce qu'ils sont frustrés, ils sont sur la glace, qui décident de jeter les gants. Ils ont 15 minutes chacun, puis après ça, ben, ils vont y penser parce que c'est long, 15 minutes passées au banc.
Oui.
Et lorsque tu as un jeune qui est pris dans une équipe pour se battre, puis qui joue pas de l'année, ou qui joue pas de la partie, je devrais dire, puis qu'on envoie sur la patinoire à la fin de la dernière période pour aller se battre, qui sait très bien qu'il ne rembarquera pas après, ben pour lui, il va continuer à aller faire ce pourquoi on l'a mis sur la patinoire. Fait que, à ce titre-là, je pense qu'on doit également se tourner vers les entraîneurs et vers les gouverneurs pour dire, regardez, est-ce qu'on peut enrayer ce type de bagarre-là? Des bagarres que je qualifie comme provoquées.
Est-ce que tu penses que la ministre Isabelle Charest fait un bon travail dans ce dossier-là, puis elle va être capable d'amener ça plus loin?
Ben, je dirais qu'elle a fait un très bon travail, parce que je ne pense pas que ça a été fait. Ce qui a été accompli, l'influence qu'elle a pu avoir auprès des dirigeants, puis l'écoute qu'elle a pu avoir auprès des dirigeants de la Ligue d'hockey junior majeure, je pense que c'est sans précédent, là, dans le sens qu'elle a fait un excellent travail, puis je salue effectivement l'intention de Mme Charest par rapport à ça. Puis je pense que comme société, puis je salue également là, M. Courteau et ses gouverneurs, parce que ce qui se fait dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, ça ne se fait pas ailleurs dans la Ligue canadienne, la Ligue de hockey junior canadienne. Donc la Ligue de hockey junior majeure du Québec a été courageuse à prendre cette voie-là, puis aller, je pense qu'elle est précurseur. C'est un geste qui est précurseur. Fait que, ça, je salue vraiment ce geste-là de M. Coupeau.
Merci beaucoup d'avoir m'accordé ce temps-là, Dean. Je te souhaite bonne chance, puis on se reparle prochainement.
OK, Dominique. Merci beaucoup.
Merci. Bye-bye.
Bye.
Il est maintenant question de tennis avec Louis Garon. Deuxième semaine du tournoi de Roland-Garros. Mais avant de nous parler du parcours des joueurs canadiens, vous nous préposez un petit cours d'histoire, Louis?
Ben oui, Dominique, parce que vous savez, le tournoi de Roland-Garros où les internationaux de France sont normalement disputés au mois de mai et pandémie oblige, on les a reportés en ce fin septembre, début octobre. Alors, Roland-Garros est un aviateur français, lieutenant, pilote lors de la Première Guerre mondiale, qu'il est mort dans un combat aérien le 5 octobre 1918. Tu sais, on a nommé le stade en son nom afin d'honorer sa mémoire et c'est par la suite que le tournoi a pris, bien sûr, le nom de Roland-Garros. Il faut dire qu'à cette époque-là, au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, dis-je, bon, il y avait les Français dominaient la scène du tennis au niveau international. Il y avait bien sûr les quatre mousquetaires formés de René Lacoste, que l'on surnommait le Crocodile, Jean Borotra, lui, le Basque bondissant, Henri Cochet, le magicien, et Jacques Toto Brugnon. Ils ont remporté la Coupe Davis de 1927 à 1932. C'est bien sûr le championnat par équipe au tennis où toutes les nations sont représentées. Et pour la première fois cette année, le cours Philippe Châtrier, nommé ainsi en l'honneur de celui qui a présidé la Fédération internationale de tennis de 1977 à 1991, bénéficie d'un toit rétractable, comme c'est le cas dans les trois autres tournois majeurs, soit en Australie, à Wimbledon et au US Open.
Malheureusement, l'ocre parisien cette année n'a pas souri à nos Canadiens.
Non, pas du tout. Aucun Canadien en deuxième semaine, Dominique. Par contre, les femmes se sont démarquées. Notons le retour en forme d'Eugénie Bouchard. Elle a atteint le troisième tour de Roland-Garros pour la première fois depuis 2014. Sa performance à Paris lui a procuré une bourse de 126 000 euros, près de 200 000 $ canadiens. Pas mal pour une joueuse qui n'a pas eu à se qualifier pour le tournoi puisqu'elle a bénéficié d'une invitation des organisateurs. Écoutons Eugénie Bouchard expliquer les raisons derrière ses récents succès.
J'ai vraiment travaillé fort avec mon entraîneur Gil à être la plus forte que je peux être et je vois une vraie différence sur le terrain. Maintenant, si je dois aller 3-7, j'ai pas peur de ça et je sais que je peux rester sur le court aussi longtemps ou plus longtemps que mon adversaire. Alors ça me donne de la confiance et aussi de la patience.
Elle ne tente plus de forcer le jeu, mettre fin à l'échange le plus rapidement possible. Alors, elle va pas pour le gros coup rapidement. Ce qui peut mener parfois à des erreurs non provoquées, Dominique, ce qui a pour conséquence, bien sûr, d'affecter la confiance des joueuses. Lorsqu'elle parlait de Gil, elle faisait allusion à Gil Reyes, qui était autrefois le préparateur physique de André Agassi. Alors, elle s'est inclinée en deux manches de 3-6 et 2-6 face à la Polonaise Iga Świątek, 19 ans, 54e joueuse mondiale, la sensation du tournoi cette année. Après sa victoire sur Bouchard, Świątek, elle s'est débarrassée de la Roumaine, l'une des favorites, Simona Halep, en deux manches de 6-1 et 6-2. Notons également l'émergence de Leila Annie Fernandez, étoile montante du tennis féminin au Canada. C'est elle qui a remporté le tournoi l'année dernière chez les juniors. Elle s'est aussi inclinée au troisième tour contre la Tchèque Petra Kvitová en deux manches de 5-7 et 3-6. Et à ma grande surprise, Dominique, elle s'est montrée très sévère à son endroit.
Je m'attendais un peu plus que pour nous, avoir un bon résultat, c'est de gagner trois matchs et perdre un, gagner quatre et perdre un. Et dans ce tournoi-ci, je ne l'ai pas fait. Alors, c'était pas... C'est pas un tournoi réussi dans notre langage d'entraînement, mais tu sais, on doit apprendre de mes erreurs.
Oui, bon, elle s'est adaptée. Malheureusement, elle n'a pas été en mesure d'obtenir autant de succès chez les seniors que chez les juniors, mais quand même, elle sera à surveiller au cours des prochaines années. Chez les hommes, il y a Milos Raonic qui avait déclaré forfait avant le début du tournoi. Nos espoirs reposaient donc sur Denis Shapovalov, Vasek Pospisil et Félix Auger Aliassime. Grosse déception pour Roger Aliassime, hein, pour son premier Roland-Garros. La 19e tête de série s'est inclinée lundi sur le court 9 en 3-7 face au Japonais Nishioka en 3 manches de 7-5, 7-5 et 6-3. Il faut dire que le Québécois n'a pas connu de succès sur terre battue cette saison. Élimination au deuxième tour à Hambourg et en première ronde à Rome. Vacek Pospisil, lui, il a subi le même sort face à l'Italien Matteo Berrettini, qui était quand même 7e tête de série. Et pour ce qui est de Denis Shapovalov, qui a fracassé le top 10 mondial, il s'est rendu jusqu'au deuxième tour avant de s'avouer vaincu contre l'Espagnol Roberto Carvalhal Baena en 5 manches. À la suite de son élimination, le Canadien ne s'est pas gêné pour critiquer les organisateurs pour leur refus de faire appel à la technologie Hawkeye, hein, sur terre battue, la fameuse technologie qui permet de revoir la reprise, à savoir si la balle a bel et bien touché la ligne ou terminé à l'extérieur ou à l'intérieur du terrain. Ce qui s'est passé, c'est que à 30 sur celui-ci ayant été victime, en compte, d'une décision défavorable, alors qu'il servait pour le match à 5-4 dans le cinquième set. À 30-15, son adversaire frappe une balle à l'extérieur, mais en l'absence d'une marque, hein, l'arbitre ne peut renverser la décision du juge de ligne. Au lieu de bénéficier de deux balles de match à 40-15, on s'est retrouvé à 30 partout. Par la suite, Carvalhal Baena a brisé le service de Shapovalov et qui perd la cinquième manche par la marque de 8-6. Hein. Alors, c'est pour vous dire que ça n'a pas été facile pour Shapovalov.
En 30 secondes, les joueurs en surveillés d'ici la fin du tournoi?
Chez les hommes, pas de grande surprise. Ce sera Nadal et Djokovic qui sont toujours en lice, qui sont les deux grands favoris, les deux premières têtes de série. Chez les femmes, surveillons l'Américaine Sofia Kenin et la Tchèque Petra Vitova qui vont s'affronter, notamment pas si fort possiblement, en demi-finale. Ça devrait être l'une de ces deux femmes qui devrait l'emporter. Mais ce qu'il faudra surveiller, c'est le joueur ou la joueuse qui va le plus maîtriser l'amorti. Parce que c'est un coup qui est utilisé à profusion depuis le début de la quinzaine parisienne, Dominique. Et ce, en raison des nouvelles balles Wilson plus lourdes, donc elles rebondissent moins haut. Et vous ajoutez ça à l'humidité qui règne en ce moment dans la ville lumière et vous obtenez le mix parfait. Alors, il faut vous dire que la finale chez les femmes sera présentée samedi et dimanche pour les hommes.
Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup à tous mes invités. On se revoit dans deux semaines. Merci à tous. Au revoir. Rebonjour, M. Thibault. Bonjour. M. Thibault, vous avez organisé la compétition de vélo à Montréal en 1976. Vous avez organisé les championnats du monde d'Hamilton en 2003. Vous avez été un des premiers entraîneurs de cyclisme au Canada. Vous avez dirigé les athlètes canadiens lors de 5 Jeux olympiques. Vous avez été de tous les succès canadiens. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vous connaissent. Est-ce que c'est si vous regardez par en arrière de votre carrière jusqu'à présent, est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne, le vélo? Comment ça a commencé, le vélo?
Oui, on peut croire que ça me passionne, oui. Ça a commencé parce que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit un peu. Mon grand-père était un passionné de vélo, un émigré belge en France. Mon père a continué la passion. Et puis moi, bon, je pensais qu'en mettant l'Atlantique entre la France et... entre moi et la France, ça allait changer les choses, mais ça n'a pas trop changé les choses parce que lorsque monsieur est établi au Québec, là, bon, ben, il fallait faire quelque chose, il fallait aider à la construction du sport. Et puis les Jeux Olympiques sont arrivés en 76, et puis je me suis retrouvé en charge des épreuves sur route. Et ça a été le début un peu de la vocation, je sais pas si on peut dire là, mais de la mission, de dire que j'ai un rôle à jouer dans le développement du cyclisme au Québec et au Canada. Voilà.
Travailler pour les Jeux Olympiques de 1976 à Montréal, comment c'était comme expérience?
Extraordinaire. Parce qu'il fallait tout. Il n'y avait pas de plan de match tout écrit là. La consigne, c'est de faire en sorte que tout marche bien et que ça soit réussi. Donc, quand on est, c'était une jeune équipe de coordinateurs qui étaient là. Puis, mon titre, c'était Road Manager. c'est-à-dire le manager des épreuves sur route, de contre-la-montre et de route sur le Mont-Royal. Et alors, c'est un été qui a passé très vite. Là, c'était vraiment extraordinaire.
Vous avez donc vous avez probablement aidé à dessiner le parcours qui a fait la côte, je me souviens plus du nom, mais alentour de l'Université de Montréal, qui est encore utilisée aujourd'hui quand ils viennent faire le Grand Prix de Montréal.
C'est le parcours classique qui est utilisé depuis, en fait, 1974. Il y a eu les championnats du monde en 1974. Et sur le même parcours, on a fait les Olympiques de 76. Et sur ce parcours, j'ai passé beaucoup d'heures à travailler pour la sécurité, pour aussi les prises de vue avec Radio-Canada, pour le dépannage, etc. Enfin, tous les aspects techniques. Ce qui était bien à cette époque-là, c'est qu'on n'était pas nombreux à avoir beaucoup, de se connaître à beaucoup le vélo, donc il y avait tout à faire.
Donc, le fait que le parcours soit utilisé encore 45 ans plus tard, ça fait probablement un petit velours?
Oui, c'est ça. C'est drôle parce que, au hasard des voyages en Europe, je vois des coureurs qui me disent « Ah, mon père a couru à Montréal sur le parcours aux Jeux Olympiques, etc. » C'est assez extraordinaire d'avoir ce genre de remarques. Les gens, quand certains coureurs savent que je viens de Montréal, ben là, ils viennent me dire que leur père a couru sur le parcours en 76.
Vous avez aussi été aux avant-postes du développement du cyclisme au Canada. Au début, c'était quoi la situation au pays?
Il n'y avait pas vraiment de plan ni de vision. Il y avait on peut dire que chaque coureur qui avait un peu de talent s'est débrouillé par lui-même. Un exemple, c'était Jocelyn Lovell, qui est un coureur de l'Ontario, de Toronto, qui avait énormément de talent et qui s'est exilé de lui-même en Hollande, à Paris, etc., pour apprendre, pour performer, etc. Et ça a commencé à s'organiser, on va dire, un peu mieux dans les années 80. Lorsque, à partir des années 81 plus exactement, j'étais entraîneur national, entraîneur de l'équipe canadienne. Et puis là, j'ai mis un plan en place pour préparer les Olympiques de 1984. Et on a obtenu la première médaille olympique avec la médaille d'argent de Steve Barr. Il y avait des jeunes coureurs assez extraordinaires, dont certains sont quand même très connus au Québec, Louis Garneau, Gervais Rioux, Pierre Harvet. Et ces jeux ont marqué le début du succès aux Jeux olympiques. Je pense qu'avant ça, c'était surtout les athlètes étaient surtout là pour participer. Mais avec Steve Barr comme chef de file, ils étaient là pour performer.
Quel était l'athlète canadien que, selon vous, était le plus talentueux que vous avez entraîné, rencontré, les athlètes canadiens?
Il y a différentes sortes de talents un peu là. Peut-être que celui qui avait le plus gros potentiel physiologique, c'était sûrement Pierre Harvet. Mais il était à la mauvaise époque, quand il était sélectionné pour les Jeux de Moscou, qui n'ont pas eu lieu. Donc ça l'a éloigné du cyclisme pendant 4 ans. Pierre Harvet, en 1976, il était très jeune, je pense qu'il avait 19 ans, il a fini aux alentours de la 20e place à Montréal pour quelqu'un qui sortait des juniors sans aucune expérience internationale. C'était une performance remarquable. Mais ensuite, comme je le disais, il a mangé une partie de carrière en vélo à cause du boycott des Jeux Olympiques de Moscou. Et un autre genre d'athlète très talentueux, c'était Steve Barrett, qui était toujours animé de la volonté de gagner. C'était pas au niveau état d'esprit, au niveau... combativité, Steve Barr, c'était numéro 1.
Et comme notre émission, on parle beaucoup de parasport, pourriez-vous entraîner un para-athlète?
Oui, je peux. En fait, j'ai déjà entraîné deux coureurs en cyclisme à main, les hand cyclistes. C'était oui. Marc Beggs et Rico Morneau. Marc Beggs a fini 8e aux Olympiques, je pense que c'était à Pékin. Et ensuite, la Fédération canadienne a embauché beaucoup d'entraîneurs parce que le succès apporte des fonds. Donc, ils ont embauché des entraîneurs qui sont spécialement orientés vers le paracyclisme. Et puis, récemment, là, il y a une nouvelle paracycliste qui m'a approché pour que j'essaie de la préparer pour les Jeux de Tokyo 2021. Alors, oui, ça me dérange pas. C'est la même chose. Il faut accompagner en fonction des objectifs, en fonction des qualités de chaque athlète. J'ai pas un plan standard à mettre à chacun, là. Quand j'entraînais les cyclistes à main, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir ces gens-là paralysés du bas du corps qui poussaient des watts comme beaucoup ne poussent pas avec les jambes, qui ouais. poussaient avec les bras. Et ça vous rend humble, mais en même temps, ça motive à faire le plus possible pour les aider.
Merci beaucoup, Monsieur Utsebo. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour le cyclisme canadien et je vous souhaite bonne chance pour le futur. Au revoir.
Je vous remercie. Au revoir.